Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Vous le savez, c'est la seule émission de radio au monde à 100% en français consacrée aux vins et aux spiritueux. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, au 31 précisément, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux par exemple sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec l'appellation Madiran, l'Autriche côté Bacchus, le cépage Gouet, bah oui ça existe. Puis le Vino Quiz pour gagner des bons cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Hélène Pio. Bonjour Hélène Pio.
Bonjour.
Et puis des garçons, plein de garçons. Philippe Orbach, David Cobold, Bernard Burchi et André Derieux. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors pour commencer cette émission, Invino sur Radio, on retrouve Hélène Pio, justement journaliste au magazine Régal, avec une personne très sympa, Pascal Ferranti, qui s'occupe du salon, un salon qui ouvre ses portes demain, Wine Paris. Bonjour.
Absolument. Bonjour Pascal Ferranti.
Bonjour Hélène.
Vous devez être sur des charbons ardents, parce qu'effectivement, vous êtes la directrice du salon Wine Paris, qui démarre demain matin.
Oui, exactement. On est vraiment très fiers de pouvoir réaliser ce salon pour la première fois à Paris, donc Wine Paris, qui va accueillir 2000 exposants.
Donc, grande
alors,
première.
La genèse, c'est quoi? Donc, il est tout nouveau, ce salon? C'est la première édition?
Oui, c'est la première édition. En fait, c'est Wine Paris qui rassemble, en fait, c'est l'union de deux salons. Le premier, donc, Vigny Sud, qui existe depuis 25 ans et qui avait lieu à Montpellier, qui est le mondial des vins méditerranéens. Et aussi, le salon Vinovision, qui a été créé il y a 2 ans et qui rassemble, donc, tous les vignobles septentrionaux.
D'accord. Voilà. Donc, on a donc des vins de toute la France, mais pas seulement, qui seront représentés?
Oui, on a 2000 exposants et nous accueillons également 16% de vignobles étrangers, dont l'Italie. Il va y avoir une très belle représentation de toutes les régions viticoles italiennes, de l'Espagne, du Portugal. Nous allons aussi accueillir des Croates, des Grecs, des Israéliens.
Est-ce qu'il y a des Moldaves?
Non, il n'y a malheureusement pas le Moldave cette
encore,
année.
Il y a des
beaucoup les Moldaves dans le sud. Oui, une très forte représentation de la Champagne, puisque effectivement, Vinovision, c'est à peu près 600 exposants. Et nous avons toutes les régions viticoles françaises. Ça, c'est vraiment, on est très fiers d'avoir pu rassembler l'ensemble de la filière française. Et la Champagne, la Bourgogne seront massivement représentées.
Hélène sur les...
Alors, je précise quand même pour nos lecteurs, avant qu'ils se fassent...
Nos auditeurs,
auditeurs,
on peut vous lire.
Absolument,
mais
c'est vrai.
Ah, mon petit kaki.
C'est ça. nos auditeurs, donc, que c'est un salon professionnel quand même. Hein. Alors, à qui vous vous adressez?
Alors, en fait, effectivement, c'est un salon B2B. Hein, Paris, effectivement, la capitale mondiale du vin. On sera ravis d'accueillir tous les visiteurs professionnels, à la fois nationaux et internationaux. Bien évidemment, les cavistes, les restaurateurs, les sommeliers.
Donc, le grand public n'a pas le droit de citer?
Non.
C'est fermé, là. Donc, l'amateur
pour l'instant,
vient.
Voilà.
Vous acceptez des journalistes?
Exactement, avec plaisir, bien sûr.
D'ailleurs, qu'est-ce qui vous différencie?
En plus, c'est à côté de chez moi, donc je vais venir souvent.
Hein. Porte de Versailles.
De Vinexpo, Pro Wine. Qu'est-ce que vous avez comme différence?
Alors nous, en fait, encore une fois, donc c'est la fusion de deux salons qui sont fortement identitaires. Ce sont des salons qui parlent des terroirs, de la typicité des vins, et où il va y avoir à la fois une grande diversité au niveau des opérateurs.
L'acheteur, quand il va venir, pourquoi est-ce qu'il va venir chez vous plutôt que Vinexpo ou en Allemagne? Qu'est-ce que vous avez comme plus?
Parce que nous avons réussi à faire venir de petits vignerons dans le bon sens du terme.
Ah,
en
des
fait.
Petits vignerons,
il y aura
d'accord.
une grande diversité au niveau des opérateurs, puisque nous sommes soutenus par toutes les interprofessions françaises, donc qui relaient l'information à leurs adhérents, et du coup nous accueillons des vignerons qui...
Qu'on ne va pas retrouver à Vinexpo.
Exactement, mais il y aura également des négociants, des caves coopératives, voilà, mais
d'accord.
notre
donc
force, en fait, c'est
ça.
La découverte, en fait. D'accord. Il va y avoir plein
Hélène
de pépites à découvrir.
D'accord, et donc tout ça a lieu à la Porte de Versailles, donc
oui.
Ce que vous vendez, c'est aussi l'image de Paris?
Oui, exactement. On a souhaité pour la première fois, c'est une aventure inédite que ça se passe à Paris, capitale mondiale du vin. Nous avons, c'est effectivement un endroit où il y a beaucoup de points de vente, hein, plus de 23 000 points de vente sur Paris. Donc c'est un rayonnement à l'international aussi avec tout l'art de vivre à la française. Donc,
Vous pensez que c'est un vrai atout justement par rapport à Provine dont parlait Alain Marty?
C'est quand même pareil, c'est un peu plus sexy que Düsseldorf. Hein.
Faut quand même. Il y a plus de gilets jaunes que Düsseldorf.
Je ne voulais pas le dire, mais je suis ravie que vous l'ayez dit. Donc c'est toute la semaine, c'est jusqu'au 13 février. Et alors le programme, les horaires, on fait comment si je suis caviste, tu veux venir, comment ça se passe?
Alors en fait, vous pouvez venir effectivement sur le salon, c'est 20€ l'entrée. Et donc les horaires, c'est de 9h30 jusqu'à 18h30.
Il y a des conférences.
Bien sûr, il y a tout un programme, c'est très très riche, le contenu de ce salon est très très riche avec plus de 30 masterclass. Et aussi, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de domaines à découvrir, notamment la nouvelle vague avec 60 jeunes agriculteurs qui ne sont pas encore diffusés sur Paris. Donc il y aura
plein d'exclusivité.
Alors un témoignage, parce que j'étais contacté par quelqu'un que je connais, qui est un jeune vigneron qui a travaillé longtemps en Roumanie sur un domaine assez important et qui vient de reprendre 5 hectares en Alsace. Mmh. Et c'est le premier salon auquel il participe. Il a 5 hectares ou 4 hectares et demi. Guylain Moritz, il s'appelle, avec sa femme qui est colombienne, je crois, elle est de l'Amérique du Sud. Mm-hmm. Et donc, effectivement, vous accueillez de
combien
tout petits vignerons.
Combien ça coûte un stand pour un vigneron qui souhaiterait, donc, cette année c'est trop tard, mais pour l'année prochaine, par exemple. Là, l'idée, c'est de faire chaque année?
Oui, tout à fait. D'accord. Et en fait, toute la filière française, donc toutes les interprofessions qui sont fondatrices et partenaires du salon, se sont déjà ont déjà réaffirmé leur volonté d'organiser.
D'accord. Donc le vigneron, ça lui coûte combien pour un stand?
À peu près 2 400 €. Voilà.
2 400 €, ce qui est raisonnable, Philippe.
Pour un salon de 4 jours, c'est ça.
Pour un salon de 3 jours, donc du lundi au mercredi.
C'est quand même un budget, notamment pour un petit vigneron, David, parce que
c'est une belle visibilité. Et je pense que effectivement,
potentiellement. C'est bien. Est-ce que ça coûte? Vous comparez les prix avec vos concurrents, par exemple, par rapport à Vinexpo? C'est ça,
question. On est nettement, beaucoup plus abordable que Vinexpo. Et c'est aussi notre ADN d'avoir justement de pouvoir proximité et de donner la possibilité aux vignerons de.
Philippe Aubrac, c'est une bonne idée ou pas, Wine Paris?
C'est une très bonne idée. D'ailleurs, l'Union de la Sommelier française est partenaire du salon. On va être présent pendant toute la totalité du salon. Et j'animerai moi-même, d'ailleurs, mardi, 2 masterclass, une sur les vins blancs avec. Le sud, le nord, un peu pas une opposition, mais justement de voir les spécificités. Style, les grands rouges aussi entre la partie méridionale et septentrionale de la France. Et un débat très intéressant sur. On pose toujours la question combien ça coûte, mais aussi combien ça rapporte. C'est-à-dire combien ça rapporte un sommelier, comment on gère finalement.
L'économie du vin.
L'économie du vin. C'est très intéressant.
Avec l'Union de la Sommelier française. Enfin, à Paris. Donc ici, ce qui est quand même. Donc ici, on avait des salons à Bordeaux, à Düsseldorf. Mais jamais rien à Paris, ce qui est quand même très étrange.
Parfait. Allez, Titus Moral mentionne très bien.
Et c'est vrai que pour la première fois, c'est sur un lieu de consommation et pas sur un lieu de production.
Merci beaucoup. Le salon, donc il y a un site internet peut-être. Le site internet pour vous dire, c'est quoi le site? C'est
oneparis.com.
Merci beaucoup. Une vidéo sur la radio. Retrouve Philippe Aubrac, qu'on verra donc mardi en live, qui sera donc tout nu en train de faire sa
Porte de Versailles.
Porte de Versailles. Le propriétaire du restaurant, le bistrot du sommelier. Alors à Paris, boulevard Haussmann, on peut y aller là tous les jours sauf le week-end.
C'est aussi un lieu de consommation.
Exactement. Avec modération toujours, mais on aime beaucoup le tuyau. Alors le Madiran, là, ça c'est un vin d'homme, Philippe.
Oui, en tout cas, c'est l'image que ça en a.
C'est
le sud-ouest,
c'est pas kaki tout ça, Hélène.
Les Pyrénées, on a l'image d'un vin rouge, robuste, puissant.
Il n'y a pas beaucoup de végans à Madiran.
Il faut dire qu'il fallait faire des vins qui résistent parce que c'était le haut pays. Et avant, il y avait le privilège notamment des vins de Bordeaux et les vins du haut pays, que ce soit les Madirans, les vins de Cahors ou les autres crus du coin, il fallait qu'ils se gardent pour pouvoir passer le temps avant que les autres, effectivement, soient vendus. Donc c'est vrai que traditionnellement, on a des vins structurés. Ça a été, c'est un vin qui est connu depuis longtemps et on y produit du vin depuis très longtemps. Les moines, bien sûr, sont passés par là. L'église en a fait son vin de messe dans la région. On y produit à la fois du rouge, c'est celui dont on parle, mais dans le même secteur, la même surface, produit également un blanc qui s'appelle le Pachering du Vic-Bil, qui existe en moelleux lorsqu'il s'appelle Pachering tout court et qui existe en sec lorsque c'est précis sur l'étiquette Pachering sec. Donc, et ces vins-là sont connus depuis longtemps, notamment par les gens qui font le pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que c'est une des étapes, et ça permet d'avoir effectivement un vin non seulement à consommer sur place, mais en plus qui peut, même dans les gourdes de l'époque, donner du plaisir aux pèlerins pendant un certain nombre de kilomètres.
Ça permet
de. Ne me regardez pas comme ça, la marche quand vous parlez de gourdes. Restez poli.
Ça permettait d'engranger des forces avant de traverser les Pyrénées.
Bien sûr. Alibel s'en souvient.
Oui. On se voit. Voilà, un peu plus compliqué. Alors, 1948, il y a le décret d'appellation qui vient consacrer effectivement les efforts des vignerons de la région. Et dès les années 60, parce que comme souvent dans cette époque, et pas qu'à Madiran, mais les vins étaient souvent vendus en vrac, et même si ça peut continuer encore aujourd'hui, l'essentiel est mis en bouteille. Et à partir des années 60, on voit naître les premiers domaines avec la mise en bouteille de la propriété et effectivement apporter plus de notoriété à cette jolie appellation finalement. Alors il y a un certain nombre de domaines célèbres et des gens qui ont marqué un peu les esprits. Je pense à Ducournau, je pense à Brumont, La Place, enfin, etc., qui sont des à la fois des domaines ou des producteurs de référence et qui font des... Il y a eu quand même une évolution dans le style des Madirans. Traditionnellement, c'était structuré dense. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps un peu des vins de Saint-Estèphe. Donc il y avait ce côté... un petit peu plus rustique encore sur Madiran que ce qu'on peut avoir sur Saint-Estèphe.
On va dire tanins, bourru, même pour une époque.
Voilà,
on va dire bourru.
Une certaine, voilà, c'était un peu bourru et un peu
il y a une trentaine d'années, c'était un peu...
On va dire ça comme ça.
Bernard Boutier, vous avez quelques souvenirs de bourru il y a 30 ans?
Il y a 30 ans, non. Mais j'ai des très bons souvenirs à Madiran.
Il y a des vins magnifiques. Et puis, franchement, on y vit bien là-bas, on y mange bien.
Ils sont très sympas.
Un peu dense en termes de cuisine aussi.
Il y a très peu de light, mais par contre, c'est bon.
Mais le French Paradox est passé par là pour donner le sourire à tout le monde, finalement. Avec le cassoulet, avec les confits d'oies de canard ou autre.
C'est pas gras, le confit.
Voilà. Tout. La truffe, c'est plus léger. Enfin, franchement, c'est vrai. Hein. Et il y en a de très belles et de très bonnes dans le
coin. Combien ça coûte, une bonne bouteille de... couleur, vous dites, il n'y a que du rouge?
Alors, Madiran, c'est uniquement rouge. Le cépage, c'est le tanat, 50% minimum dans le décret d'appellation, complété par les cabernets, francs, sauvignon. On peut y trouver aussi d'autres cépages, comme le fer sarvadour. Enfin, il y a des petits cépages complémentaires. C'est vraiment anecdotique. C'est quand même le tanat. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le tanat est d'autant plus mis en valeur. Certains vignerons célèbres font des cuvées pure tanat. Avec le travail qu'ils font aujourd'hui pour travailler plus dans la souplesse des tanins, on garde la densité de la structure, on a gagné en élégance. Et finalement, on peut trouver des très très jolis vins bien élevés aujourd'hui. Et ça, alors, ça coûte combien? C'était votre question. Hein.
Ben oui, c'est ça.
C'est vrai que c'est plus complètement le vin à 10 euros, mais à partir d'une quinzaine d'euros, on trouve des Madirans intéressants.
Moi, je mettrais un mot pour
la cave de
un
Plémont.
Un truc qui s'appelle le Clos de l'Église.
Exactement.
Très joli vin.
Voilà, encore une petite clin d'œil à l'histoire de la région. Alors, les domaines, je disais
tout à l'heure. Bravo.
La cave de Plémont fait des Madirans un peu plus souples, plus accessibles en goût et en prix. Dès qu'on monte dans les tours avec les grandes cuvées de Brumont, de domaine d'Aidy, de Lafitte Teston, de Perros, etc., on peut monter à 25-30 euros, mais ça vaut la peine.
Merci.
Et la branche Lafond, n'oubliez pas qu'il y a une vigne pré-phylloxérène à la branche Lafond.
Ça date de très longtemps, ça. Merci Philippe Aubrac, merci David, merci à tous. Dans un instant, les quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur invinoradio.fm et puis après, on partira en Autriche. Avec qui? Avec David Cobol et son vélo.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour au restaurant Bar à Vin Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et puis le Vino Quiz, Hélène.
Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, un abonnement de 6 mois au magazine Terre d'Auvin. Ce week-end, nous voulons savoir si le Zinfandel est A, un vin australien, B, un cépage blanc alsacien ou C, un cépage noir très présent en Californie. Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène Piau. Invino sur Radio retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour une découverte du vignoble autrichien. Il y a des vignes en Autriche, David?
Ben oui. Alors, 1% de la production mondiale du vin vient de l'Autriche. Alors, c'est un peu moins exotique que la Croatie, encore moins exotique que la Moldavie, et encore moins exotique que la Chine. C'est les trois pays dont j'ai parlé dans les trois émissions précédentes. Mais on va revenir un peu plus proche. Et on est dans l'Union européenne, comme la Croatie d'ailleurs. L'Autriche, c'est un pays très intéressant sur le plan qualitatif du vin, pas sur le plan quantitatif. Il y a 45-46 000 hectares de vignes, donc c'est moins que la moitié de l'ensemble du Bordeaux. On produit 70% de blanc pour le reste en rouge, un peu de rosé aussi. Et tout le vignoble est concentré dans la partie est du pays.
D'accord.
Dans tout le reste, on fait du ski en hiver ou de la montagne en été. Hein. Donc, c'est assez simple, la division. Vin à l'est, ski à l'ouest.
Ski de l'autre, quoi. Oui, voilà. C'est bien. C'est le business,
alors,
quoi.
Comme ça, tout le monde a compris. Il y a 9 à peu près sous-régions ou appellations. Il y a un système d'appellation contrôlée qui s'appelle le DAC, en latin, d'ailleurs. Et le cépage le plus important est un cépage blanc, le Grüner Veltliner, qui est spécifique à l'Autriche. Gruner Veltliner.
Très bien, parfait.
Hein, ça va. Hein.
Ça, c'est parfait.
C'est plus facile que les vins croates.
Non, mais c'est parfait.
Pour l'instant, tout va bien. Mais on trouve aussi des cépages. On trouve le Riesling, cépage allemand, et on trouve des cépages français, le Sauvignon blanc, le Chardonnay et le Pinot blanc. Pas mal de Pinot blanc. Pour les rouges, dans les cépages régionaux, on a trois cépages importants qui sont le Blaufränkisch, le Saint-Laurent ou le Saint-Laurent et le Zweigelt, qui est au fait un métis entre les deux précédents. À côté, on a le Pinot Noir, on a le Merlot, les Cabernet, etc. Ce que je trouve très intéressant dans l'Autriche, c'est qu'ils ont pris le problème par le bon bout. Ils ont pris le problème par une exigence de qualité, il y a une part assez importante de vin biologique pour ceux que ça intéresse. C'est 13 à 15%, je crois, maintenant en Autriche, donc c'est assez important. Ils ont une législation très stricte sur les vins à bulles, les ZECT, qui sont utilisés, qui sont faits par la méthode traditionnelle, avec une graduation en fonction de la longueur de gave en quart sur lit. Ça, c'est très bien. Les sous-régions ont des mésoclimats différents. Pour vous situer un peu le climat, on est entre la latitude de la Bourgogne et celle de la Champagne. Donc, c'est à peu près avec un climat beaucoup plus continental. Donc, quand vous allez vraiment vers l'est, qui borde la Hongrie, vous êtes sur un climat très, très chaud en été, avec une belle arrière-saison, et on produit de très grands liquoreux dans cette région. Après, au sud, on rentre dans les montagnes, les Préalpes, frontalière avec la Slovénie, où le Sauvignon blanc est dominant. Et puis au nord, vous avez le Grunewald-Lena contre la Slovaquie et contre la République tchèque. Donc il y a quatre pays différents qui bordent cette partie est de l'Autriche. Ce qui m'a impressionné depuis vingtaine d'années, c'est la montée progressive de la qualité des vins autrichiens. Il y avait une grande dégustation récemment à Paris des vins autrichiens, tous importés en France. Et je vais signaler quand même quelques producteurs que je trouve extrêmement recommandables pour la qualité de leur vin et pour la constance dans cette qualité. D'abord Brundlmeier, qui lui est situé dans la zone de Comptal, c'est un peu au nord du Danube, donc à l'ouest de Vienne. Vienne qui a, entre parenthèses, sa propre appellation, c'est la seule capitale européenne qui a une appellation pour le vin. Il y a eu pas mal de vignobles autour de Vienne. D'ailleurs, il y avait un vin viennois présent à cette dégustation.
C'était bon ?
Oui, oui. Brundlmeier, remarquable, spécialiste blanc, mais il fait aussi de très bonnes bulles, Grüne Veltliner et Riesling pour les blancs. Un autre domaine dans la même région, Schloss Gobelsberg, qui est un magnifique domaine, purement spécialisé dans les blancs. Il ne fait pas de rouge et ça, tout est bon, voire très, très bon. J'ai découvert un domaine dont j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais goûté, qui s'appelle Moritz. Moritz, le producteur s'appelle Roland Velich. Et j'ai beaucoup aimé ces deux rouges qui sont des Blaufränkisch. J'ai moins aimé son blanc qui est un peu spécial, mais les rouges sont magnifiques. Ça vaut entre 25 et 50 euros, donc c'est pas des vins donnés. C'est pas hors de prix, mais ça vaut vraiment.
Et ça peut se garder, ça, David, ou pas?
Oui, oui. Ouais. Blaufränkisch, Saint-Laurent et Zweigelt sont des vins de garde. C'est assez coloré, assez structuré. Le Saint-Laurent un peu plus souple, avec des tanins qui peuvent être impressionnants et une très belle acidité. C'est la constante dans les vins rouges, c'est cette acidité qui aide dans la garde. Et puis un autre domaine que j'ai découvert qui s'appelle Tinhof, qui est dans la région de Eisenstadt. Eisenstadt, c'est la partie nord du Burgenland qui regarde le grand lac Neusiedlsee. Et là, il y a de très jolis rouges et des blancs, et ceux-là sont importés par Soif d'ailleurs. Vin du Monde importe Brundlmeier. Et Schloss Gobelsberg est importé par Terre du Vin. Donc, on peut trouver ces vins en France. Les prix vont aller pour les entrées de gamme entre une quinzaine d'euros et pour les hauts de gamme, comme je le disais, 55, 60, voire un peu plus.
À découvrir, David Gain.
Vraiment à découvrir. Moi, j'encourage tout le monde. J'ai presque jamais goûté un mauvais vin en Autriche, dans plusieurs voyages. C'est vraiment très, très impressionnante. Et en plus, ils sont sympathiques. Leur site web est extraordinairement bien fait. Vous avez tous les renseignements en français, en anglais, en allemand, bien sûr, et je pense en chinois maintenant. Allez-y, regardez Wines of Austria. Vous allez avoir toutes les informations sur ces vins. On peut recommander d'autres domaines. Le domaine à Vienne qui s'appelle Weininger. Bon, c'est bien nommé. Pichler Krützler, qui est très bien, importé par Barrière et Cap de Viel. Et puis Hubert par Southwold Wines. Et pour les grands liquoreux...
Hubert, vous dites Hubert.
Hubert.
Hein.
Et Kracher, qui est très connu pour ses liquoreux, qui sont extraordinaires.
Merci David Cabol. Une vidéo sur la radio. On retrouve André Derieux, consultant patrimoine de la vigne et du vin, pour parler d'un cépage, une variante du cépage Gouet. Mais c'est quoi ça, Gouet?
Alors là, je fais confiance à Philippe Faubrac pour nous chanter Papa Outé. Vous savez,
allez,
la
allez-y,
Philippe,
là, là, allez,
Papa Outé,
Outé, il la ramène-moi, là.
Ramène-moi, ouais, ouais, quand on demande Papa Outé, là.
Je vais simplement vous raconter Papa Goué Outé.
Oh
le goué. Cépage blanc est une très vieille variété et selon les dernières recherches génétiques, c'est le plus ancien cépage connu au monde. Il est connu sous 180 synonymes différents,
ah,
ce qui témoigne de sa large présence partout en Europe à un moment ou à un autre de l'histoire. Je vous l'épargnerai. Par contre, la descendance du goué blanc est colossale. Elle est prouvée là aussi par des analyses ADN et
on l'appelait le Casanova des
villes. Exactement. Ouais. On dirait un patriarche de la Bible. Alors je sais bien que c'est pas très congruent, hein, patriarche et
parce que
Casanova.
C'est un
oui, c'est vrai, c'est bizarre. Ouais.
Mais effectivement, alors Louis V préfère dire que c'était un géniteur particulièrement important et efficient.
Qui a dit ça, le
Louis V, l'Organisation internationale du vin, et qui mentionne comme conjoint le Pinot Noir, le Traminaire, le Chenin. Et il a eu 80 enfants. Vous êtes prêts? Non, je vais vous faire la grâce de ne pas tout vous les dire.
80 enfants.
Alors, on a les ligotés. On a le Sylvaner, le Chardonnay, le Gamay, le Riesling, le Melon, le Furmint, le Sassy, le Petit Mélier, l'Aubin, le Colombard, le Genouillé, le Romorantin, le Groslot, etc., etc. Et il y a énormément de descendants qui n'ont pas eu vraiment beaucoup de succès, comme le cépage Balzac.
Balzac,
qui n'a pas vraiment écrit de comédie empélographique.
Non.
Ceci dit, il y a une parcelle qui va en être plantée cette année à Tours, puisque c'est le 220e anniversaire de la naissance de cet écrivain prolifique.
Ah, très bien, il fallait trouver le lien quand même.
Eh bien, nous n'avons pas fait preuve de beaucoup de gratitude devant ce caractère fertile et apte à la paternité. Ce cépage est banni. Il a quasiment disparu.
Il s'appelle le Sifredi maintenant.
Déjà, rien que le nom qu'on lui a donné, goué, ça veut dire cépage de gueux. Cépage gueuche dans le
d'ailleurs,
Jura.
D'ailleurs, tout seul, je l'ai goûté une fois, ça ressemble étrangement à de l'acide de batterie. Hein.
Alors, effectivement, je vais vous en parler après de ma dégustation, effectivement.
Mais acide de batterie que vous goûtez souvent, d'ailleurs.
Je suis le grand spécialiste mondial de l'acide de batterie.
Dans le sud-ouest, on l'appelait le bouillot, ce qui désignait direct le chemin de la distillerie. Alors, le phylloxéra, l'abandon de la plantation des terres, le fait qu'on a abandonné les terres les moins qualitatives, les terres à goué ont eu raison de lui. Donc, Papa Goué Outé, à sacré papa, dis-moi où tu es caché, disparu de France, du moins parce que dans le Haut-Valais, la partie germanophone du Valais, en Suisse, vers Crans-Montana, aux Zermatt, je parle pour Lamarty qui connaît bien ce point-là.
Bien sûr, moi j'ai écouté.
Il a été cultivé dès 1540 sous le nom de Goués, d'accord ? Et dans le vignoble du Rheingau, vers Francfort et Bingen, il est connu et a été replanté sous le nom de Heunisch, nom qui semblait indiquer que le cépage a été apporté par les Huns.
Et vous savez
que pour Sartre, l'enfer des uns, ce sont les autres. On est à peu près sûr aujourd'hui que le cépage est originaire d'une zone entre Paris et Bingen. Et il y a Paris des villages qui sont nommés Goué ou Gouex. Au Moyen-Âge, période de complantation de la vigne.
C'est passionnant ce que vous racontez, André, aujourd'hui.
Et utile. Au Moyen-Âge, période de complantation de la vigne, de plantation de cépages différents tous ensemble, il était recommandé d'équilibrer dans la vigne le Heunisch et le Frankisch, hein, Pinot Noir, Savagnin, Traminer. C'est une pratique largement...
Sur les mamelles de la vigne.
Non, mais je pense que génétiquement, entre André et David, il y a un truc là, parce que là,
c'était une pratique largement répandue. Le premier apportait acidité, rendement et résistance au gel hivernal.
Ah oui.
On disait de lui au XVIe siècle, et c'est très joli, « Nul n'est moins tendre à la gelée ».
Oh, ah oui, c'est bien.
C'est joli, ça.
Le second apportait arôme et sucre. Alors, permettez-moi de citer, pour arriver à des choses concrètes, Saint-Hildegarde de Bingen. Cette religieuse bénédictine du XIIe siècle, mystique, femme de lettres, compositrice de chants et d'hymnes, des femmes comme on aimerait en rencontrer plus souvent.
À part les pieux, je connais
l'une
pas, moi,
des quatre femmes docteurs de l'Église avec Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux, excusée du peu. Elle était naturaliste et médecin et a écrit une somme. Physica sive subtilitatum diversarum naturarum creaturarum libri novem sive liber simplicis medicinae, qu'on traduit en français de manière tout à la fois brève et explicite par de la nature. C'est une description de minéraux, d'animaux et de plantes et de leurs utilisations thérapeutiques. Elle y décrit le vin de Frankisch comme tellement fort et mettant tellement le sang en mouvement qu'il était nécessaire de le diluer avec de l'eau. Le Heunisch, le goué, est lui par nature aqueux et n'a pas besoin d'être dilué. Bah oui. Alors bon ou pas bon le goué, peu alcoolique, au mieux des arômes de poire et une acidité très marquée, comme disait David, au pire une acidité très 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 marquée. J'en ai dégusté un verre aux dernières rencontres des cépages modestes en novembre, il était d'une vivacité agaçante dont se souviennent encore mes gentilles à l'heure où je vous parle.
Et votre dentiste.
Comme dit l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, le goût est fort commun, son plan dure 100 ans en terre, il est infiniment meilleur en verjus, soit liquide ou confit, qu'en vin. La moralité de tout ça, pour terminer, je me tourne vers mes enfants, mes petits-enfants, ce n'est pas parce qu'on a plein de défauts qu'on ne peut pas avoir une descendance formidable.
Oh, excellent, André, excellent.
Et pour
excellent.
Conclure, ouais. Tout le monde sait comment on fait les bébés, personne ne sait comment on fait les papas. Ça fait au moins 10 fois que j'ai bouffé mes doigts.
Oh, très bien.
Excusez-moi, c'était le papa ou des finales. Voilà, petit hommage au Gouet.
Merci André, Hélène, David et Philippe. Fin de ce numéro un peu spécial de InVino Sud Radio, pour ça en plus, mais très bien quand même. Sur le site, rendez-vous sur le site, sudradio.fr, invinoradio.fm ou sur notre page Facebook InVino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission. Et oui, encore une, on sera dans les 805-806, toujours en public et délocalisé au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout observez la plus grande démodération.
Sud Radio InVino.